Alors on va continuer de commencer le programme de la matinée par une présentation de François Le Cellier qui va vous expliquer l'eye tracking, tout ce que vous avez commencé à expérimenter hier.
Oui, donc hier on a vu différents appareils pour faire de l'eye tracking. Je vous ai montré les lunettes, je vous ai montré la barrette qu'on pose devant l'écran de l'ordinateur. Tout ça, je vous ai dit qu'on allait en parler aujourd'hui, que j'allais vous expliquer comment ça fonctionnait. Donc, je reviens très rapidement dessus. L'objectif, c'est analyser le regard de l'utilisateur, savoir où l'utilisateur regarde, soit sur un écran, soit dans la vie réelle avec les lunettes. Alors, il y a différentes applications, on en a parlé un petit peu hier. On peut faire des études de marché avec ça. On peut travailler en ergonomie, ça je ne l'ai pas entendu hier, mais ça peut servir aussi pour faire de l'ergonomie de différentes applications. On peut l'utiliser en traitement et analyse d'image, on reverra ça tout à l'heure, également en pédagogie ou d'autres applications. Alors, il y a différents matériels, il y a les eye trackers fixes. Je ne vous en ai pas parlé, je ne vous en ai pas montré parce qu'on n'en a pas au laboratoire, mais c'est des eye trackers qui sont fixés directement sur l'écran de l'ordinateur ou sur un écran spécifique pour fonctionner au même rythme et à la même fréquence que l'écran, puisque si on a un eye tracker qui fonctionne à 200 Hz, autant avoir un écran qui répond aussi à 200 Hz. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Les eye trackers mobiles, c'est les petites barrettes que je vous ai montrées, ou les lunettes. Alors, en guise d'introduction à l'oculométrie, c'est le terme français pour parler d'eye tracking, je vais vous faire une petite définition de ce qu'est l'oculométrie, des différents matériels, des utilisations. Puis après, je vais parler d'eye tracker fixe ou des barrettes, puisque ça a la même utilité pour l'identification, la science et pour l'interaction. Et ensuite, l'eye tracker mobile. Alors là, c'est une présentation que j'avais déjà. J'ai marqué démonstration. On a déjà fait les démonstrations hier, mais je vais vous expliquer un peu à quoi ça peut servir. Alors, le but de l'oculométrie, c'est de déterminer la position du regard de l'utilisateur. Pour cela, on va vouloir essayer déjà de comprendre le fonctionnement du système visuel humain pour savoir ce qui intéresse l'utilisateur. Donc, si on regarde l'image ici, on voit que l'utilisateur a regardé au niveau ici des visages, au niveau de la main, il va y avoir une montre ou un bracelet, et au niveau du sigle de la marque. Et le but, c'est, une fois qu'on a compris ce fonctionnement du système visuel, soit de l'utiliser pour la recherche, le design, le diagnostic, ça peut aussi être utilisé en médical, soit pour interagir directement avec les ordinateurs ou les machines. Ben, ça peut arriver que les mains ou la voix ne soient pas utilisables, on est dans un environnement très bruité, et avec beaucoup de monde, on n'a pas un écran tactile, ben on va utiliser un eye tracker pour pouvoir déplacer le curseur de la souris ou passer d'une image à l'autre sur un écran, ou pour faire tout simplement de l'interaction multimodale. On est en train de parler avec quelqu'un, on veut lui présenter quelque chose, ben on va regarder l'écran de l'ordinateur, ça va changer la diapositive. Donc là, ce serait pratique, par exemple, je n'aurais pas besoin de ma souris pour changer de diapositive. Alors, les exemples de matériel, alors, les eye trackers... Les barrettes sont là, les eye trackers fixes qui sont directement intégrés à l'écran, ce sont des écrans comme celui-là, donc avec un eye tracker sur le bas de l'écran, et vous voyez, donc il n'y a pas d'eye tracker, la personne a une tête totalement libre pour pouvoir l'utiliser. Alors, tous ces eye trackers existent en tête libre, mais aussi en tête fixée, c'est-à-dire que je ne sais pas si tout le monde est déjà allé chez l'ophtalmo. Chez l'ophtalmo, on a tendance à poser la tête contre un truc, et puis parfois ils nous fixent même la tête à l'arrière pour vraiment pas qu'on bouge, eh ben, il existe des eye trackers où il faut avoir la tête complètement fixée comme ça, parce qu'ils fonctionnent à une telle fréquence que le moindre petit mouvement de la tête va les perturber. Là, les eye trackers que je vous ai montrés sont des eye trackers qui fonctionnent suffisamment lentement pour ne pas avoir ce problème. Et ensuite, les eye trackers de type lunettes, donc ça c'est un autre modèle de lunettes que je vous présente, donc là où la personne peut se déplacer librement, comme vous l'avez vu hier. Alors, les applications, ça va être les études de marché, des marketing, des tests en magasin. Alors, il existe des chaînes de magasins qui vont acheter un ou deux eye trackers sous forme de lunettes. Alors, je dis bien un ou deux, puisque vu le prix, on n'en achète pas 50 en général. Et qui vont envoyer des clients se promener dans le magasin pour vérifier que les rayonnages sont bien installés et que les produits qu'ils veulent mettre en avant sont bien mis en avant. À quel endroit, plutôt, l'utilisateur va les regarder. Ça peut aussi avoir des applications commerciales. Donc, même chose dans des magasins, on va avoir cette fois-ci des marques, et non plus la chaîne de magasins, qui vont vérifier que leur marque est bien mise en avant, comme stipulé par exemple par un contrat de magasin. On peut s'en servir aussi pour de l'ergonomie, l'ergonomie de page web. On va avoir le parcours visuel d'un utilisateur sur la page web pour savoir où est-ce que l'utilisateur va avoir regardé et donc quelles sont les zones qui vont l'intéresser. Est-ce que la page est suffisamment ergonomique pour qu'on voit facilement où sont les boutons pour valider les choix, etc. On va avoir la même chose sur des applications mobiles. Alors là, cette fois-ci, si on est sur des applications mobiles, si on est sur un téléphone, vous vous doutez bien que je ne peux pas intégrer un eye tracker directement dans un téléphone. Donc là, on va être avec les lunettes. La personne porte les lunettes, on lui présente une application mobile, et on va voir ce qu'elle regarde sur son écran de téléphone. Ça peut aussi être utilisé pour des cours en ligne. Donc là, on va avoir un eye tracker qui va être positionné sur l'écran d'un utilisateur pour lequel on veut tester le type de cours en ligne pour savoir si la vidéo correspondant au texte du cours est positionnée au bon endroit de l'écran par rapport aux attentes de l'utilisateur, suivant l'âge de l'utilisateur, suivant son niveau technique, suivant son intérêt pour le cours. Et on peut aussi faire de l'analyse en temps réel, donc sur de la conduite automobile. Je parle de conduite automobile, mais ça peut aussi être utilisé pour d'autres types de conduite. Les lunettes sont utilisées pour former les pilotes de chasse. Donc on va vérifier que l'environnement du cockpit de l'appareil est convenable et que le pilote va avoir regardé vraiment dans toutes les directions avant de faire certains mouvements. Et donc les lunettes vont être utilisées pour ce type de choses, mais aussi pour la conduite automobile, pour découvrir un environnement. On va se balader dans un lieu totalement inconnu, on va le découvrir, et pour voir comment la personne va découvrir ce lieu, on va utiliser un eye tracker, ou pour voir la disposition d'une exposition. Si on va se promener dans une exposition avec des lunettes eye tracker, c'est pour essayer d'améliorer la disposition pour que les panneaux qu'on veut mettre en avant soient vraiment ceux qui attirent le plus le regard de l'utilisateur. Alors, un eye tracker, ce qu'il faut, c'est déjà avoir le matériel adapté aux besoins. Il y a différents types de matériel, je vous l'ai dit, donc il y a différents types de besoins. La première chose qu'il faut faire, c'est la calibration. On l'a vu hier, lorsque l'eye tracker n'est pas calibré, ben, le moment où on voulait faire tourner le cercle, le cube, on n'y arrivait pas parce que l'eye tracker n'est pas calibré en fonction de l'utilisateur. Donc c'est vraiment adapter l'appareil à l'utilisateur parce qu'on a tous un écartement des yeux différent, une manière de regarder un petit peu différente. Ensuite, on va utiliser et enregistrer en calculant la position du regard et enregistrer les données. Je vous montrerai les types de données qu'on peut recueillir tout à l'heure. Et les types de données, ben, ça va être les trajectoires, des micro-mouvements, des saccades, des fixations. Je vais revenir sur ces notions de mouvement, micro-mouvement, saccades, fixation, parce que c'est des mouvements très particuliers du regard. Et il y a certains types de mouvements qu'on va vouloir analyser suivant l'utilisation, encore une fois. Alors là, les photos que vous voyez là, c'est les photos qui sont prises par les caméras infrarouges qui sont situées dans l'eye tracker. Donc dans l'eye tracker, vous avez des petits illuminants infrarouges qui vont éclairer la pupille. Ça va être reflété par la pupille et ensuite ça va être capté par des caméras infrarouges. Ces caméras infrarouges vont donc avoir la pupille de manière très claire par rapport à la réalité. Donc normalement elle est noire, mais là elle apparaît de manière très claire. Et donc c'est beaucoup plus facile à détecter par un système de traitement d'image. Ces différents mouvements, ces différentes positions, ça va être lorsque l'utilisateur va avoir regardé différents points sur son écran. Donc les différents points, ça va être les quatre, en général les quatre coins, un point en haut, un point en bas et un point au centre. C'est ce qu'on a vu hier quand on faisait les tests, quand on faisait la calibration. Il y avait différents points à faire éclater. Ils étaient situés aux quatre coins, un en haut, un en bas et un au centre. Pour les lunettes, vous avez vu que la calibration se fait avec un seul point. J'ai montré une petite carte avec un point au centre. Tout simplement parce que les lunettes, c'est un système un petit peu différent qui va être utilisé. Les lunettes vont capter directement la position. Et donc là, l'écartement des yeux n'influe nettement moins. Ensuite, ça va nous donner une matrice de transformation qui va ensuite pouvoir passer directement d'une nouvelle image à se dire, ben voilà, cette nouvelle image, à partir de la matrice de transformation, où est-ce qu'est la position du regard ? Donc c'est exactement comme ça, la personne va regarder, va avoir une image qui va être prise, on va calculer à partir de la matrice de transformation une position du regard avec le temps, donc le moment exact dans la séquence d'eye tracking où a été prise cette image, la position en X, en Y et en Z. Alors XY, ça peut être la position XY sur l'écran, mais ça peut aussi être la position XY dans la réalité par rapport à le champ de visée de l'eye tracker. Je vous montrerai les différents résultats. Et c'est maintenant que je vais vous parler un petit peu du système visuel humain. Je vais rester assez en amont pour pas aller trop dans les détails, si vous avez des questions, bien entendu, je pourrais y répondre. Il existe trois zones au niveau de ce qu'on peut voir, et quand on est en train de découvrir un environnement, c'est comme ça que ça va fonctionner. On va voir tout d'abord la zone fovéale, qui est la zone de fixation. Quand je regarde quelque chose, cette zone de fovéale est très petite, c'est environ 1 à 2 degrés par rapport à mon champ de vision. Donc c'est très petit, c'est la zone de fixation, c'est la seule zone qui est nette dans l'intégralité de notre champ de vision. Notre cerveau nous donne l'impression que tout le reste est net, mais en fait si on prend une image de ce qui est vu par la pupille à ce moment-là, il n'y a que cette zone-là qui est nette. Ensuite, il y a la zone parafovéale, qui est une zone de découverte, qui est un petit peu plus floue, mais qui est toujours relativement nette, et là, qui va faire entre 2 et 5 degrés. Donc, c'est toujours assez petit, hein. On a vraiment une zone de focalisation très petite. Et ensuite, la zone périphérique, qui va être le contexte, qui, là, par contre, est totalement floue. Alors, totalement floue, on voit quand même les couleurs, mais si vous regardez sur l'image, vous voyez que c'est quand même relativement flou, et là, qui peut aller jusqu'à 220 degrés. Alors, 220 degrés, c'est vraiment la grande limite. C'est vraiment ce qu'on va percevoir sur les côtés. Quand on regarde droit devant nous, on perçoit des choses sur les côtés. Mais on les perçoit tout juste. Là, on peut faire le test, hein. C'est assez facile de voir à peu près notre ouverture de champ visuel. Il suffit de regarder droit devant soi et d'ouvrir les bras. Si les bras sont là, là, je ne le vois pas. Il faut que je l'avance un petit peu pour que je le voie. Donc moi, ma zone n'est pas tout à fait 220 degrés. Elle est plus proche des 180. Donc, les zones fovéales, parafovéales et périphériques vont servir pour les saccades et pour les fixations. Les saccades, c'est quelque chose qui est à vitesse rapide, qui va nous permettre de découvrir la zone. C'est des mouvements amples. Quand je vais arriver dans un nouvel endroit, mes yeux ils vont passer assez rapidement d'un point à l'autre pour découvrir tout mon environnement. Donc c'est des mouvements très amples qui nous permettent de faire une découverte de la zone. Et lorsque quelque chose va attirer mon regard, à ce moment-là, je vais passer sur le système de fixation. Et donc, la vitesse là va être plus lente, en général inférieure à 30 Hz. Et je vais analyser le contexte. Donc, si je découvre une image, comment je vais faire? Je vais regarder 1, 2, 3, 4 points de fixation. C'est un exemple. Ces 4 points de fixation, voilà comment je les vois. Donc, j'ai ma zone fovéale, ma zone parafovéale et ma zone périphérique. La zone fovéale va être la première fixation. La zone parafovéale, ça va nous aider à trouver le contexte de cette découverte d'image. Et la zone périphérique, c'est vraiment le global. Et là, je vais me dire, tiens, dans la zone périphérique, mon regard, il va avoir été attiré par une saccade sur le dôme bleu ici, parce que le bleu va avoir un fort contraste par rapport au reste de l'image. Et donc, ce dôme bleu, eh ben, hop, mon regard va se passer dessus. Et donc, je vais faire une nouvelle fixation sur ce point-là. Alors là, c'est les mouvements standards. Il existe aussi des micro-mouvements très rapides, là cette fois-ci supérieurs à 300 Hz, donc plus de 300 par seconde. Ça, ces micro-mouvements, par contre, ils sont tout petits. C'est les micro-mouvements d'acclimatation ou de positionnement. Ces micro-mouvements augmentent lorsque, par exemple, on est fatigué. Quand on a une grande fatigue visuelle, on va avoir beaucoup plus de micro-mouvements. Quand on va avoir différents types aussi pour certaines pathologies, on va avoir des micro-mouvements aussi très importants. Donc là, par contre, pour mesurer des mouvements à 300 Hz, là, cette fois-ci, il faut être posé sur quelque chose, avoir la tête attachée, et croyez-moi, c'est très désagréable. Donc, une fois qu'on a découvert une image, qu'est-ce qu'on va mesurer avec un eye tracker? Avec un eye tracker, on peut tout mesurer. On peut mesurer tous les mouvements, depuis les saccades jusqu'aux fixations, même les micro-mouvements avec certains eye trackers. Un exemple de résultat, ça va être le suivi des points de fixation. On va partir du point numéro 1. En général, le point numéro 1 est au centre de notre champ visuel. Quand on va découvrir une nouvelle image, traditionnellement, notre regard va se poser au centre. C'est assez classique. Et ensuite, on va découvrir, suivant, ce qui va nous intéresser spécifiquement. Pour certaines personnes, le chemin visuel va être totalement différent. Par contre, on va se rendre compte que si ce chemin de suivi visuel, l'ordre exact des points est différent pour chaque personne. Ce qu'on appelle la carte de chaleur ou la carte de saillance, la partie saillante de l'image, va être en général assez fixe suivant les gens. Donc quand on va regarder ou quand on va faire des tests sur une dizaine, une quinzaine, une centaine de personnes, on va se rendre compte que cette zone-là, donc là c'est le biais central, hein, donc la zone centrale est en général plus regardée, mais ensuite ce qui a attiré le regard, c'était ici, là. Et là, on se rend compte que, voilà, c'est pareil, si je regarde cette image-là, je vais avoir le biais central. Alors, cette image-là est d'ailleurs très bien conçue, parce que le biais central fait que le centre est ici. Et ensuite, je vais découvrir mon contexte. Si je regarde d'autres images dans la salle, on va avoir d'autres types de choses qu'on va voir. Alors, en général, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on a des affiches et qu'on veut mettre les informations sont en général bien centrées, c'est tout simplement parce que nous-mêmes, même sans avoir fait d'études d'eye tracking, on sait que ce qui est au centre est toujours le plus vu. Alors, je vais maintenant passer à l'eye tracking. Alors, l'eye tracker fixe, qui va être utilisé pour l'identification de la science ou l'interaction. L'interaction, on l'a vu un peu hier. L'identification de la science, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y avait. Alors, les premiers modèles, c'était exactement comme les nouveaux modèles dont je vous ai parlé, ceux où il faut se fixer la tête. C'était exactement ça sur les tout premiers modèles. Il fallait être précis sur la distance entre la personne et l'écran. Donc, c'était assez pénible de faire les tests en eye tracking dans les premiers modèles parce qu'il fallait asseoir la personne, lui dire « Vous ne bougez plus ». On lui attachait la tête. On mesurait la distance entre son œil et l'écran. Donc, on prenait une règle. On mesurait l'inclinaison de l'écran par rapport à la position de l'utilisateur. Après, on lançait la calibration en entrant tous ces paramètres dans l'eye tracker, etc., etc. Maintenant, c'est beaucoup plus souple, hein, vous avez vu hier. Je ne me suis pas embêté à dire à la personne « Non, là, ça ne va pas du tout. Tu es à 62 cm alors qu'il faut être à 60 au maximum. » Il n'y a pas ce problème-là. Alors, l'expérimentation, on l'a faite hier. Ce qu'on peut avoir comme résultat dans le fichier, ça va être la durée, la position des yeux en 3D, donc dans la zone de vue de l'eye tracker, la position du regard, cette fois-ci en 2D, sur l'image, et également le diamètre des pupilles. Ça va nous permettre d'obtenir ensuite la carte de chaleur, le parcours visuel, et on peut tout utiliser. Par exemple, le diamètre des pupilles, ça va être des indices de fatigue visuelle. Si on se rend compte que les pupilles diminue ou augmente suivant les cas, ben dans certains cas, ça va tout simplement être que la personne est fatiguée, en train de fatiguer visuellement. Donc ses pupilles vont se dilater pour capter plus de lumière. Alors, si je prends cet exemple, ça, c'est un exemple de résultat d'eye tracking avec les diamètres des pupilles sur l'œil droit en bleu et sur l'œil gauche en orange, ou marron. Pas très bien, c'est plutôt marron là. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, à votre avis ? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut déduire de ça ? Donc, l'œil droit est en bleu, l'œil gauche est en marron, orange. Alors déjà, ça évolue de la même manière. C'est déjà pas mal. Ça veut dire que les deux yeux évoluent pareil.
Il y a un œil directeur ?
Alors, c'est pas vraiment qu'il y a un œil directeur. Le diamètre des pupilles va pas nous permettre de calculer l'œil directeur. Le diamètre des pupilles, il est surtout fonction de la lumière. Mais là, moi, ce que j'en déduis directement, c'est que la personne qui a fait ça était de profil par rapport à la source lumineuse.
Était de
profil par rapport à la source de lumière. Parce qu'en étant de profil par rapport à la source de lumière, il y a un œil qui est plus éclairé que l'autre. Et je peux même dire que comme c'est l'œil droit qui est le plus petit, le diamètre de pupille de l'œil droit qui est le plus petit, c'est l'œil droit qui était le plus proche de la source de lumière par rapport à l'œil gauche. Or, sur celui-là, c'est facile, hein, à déduire. Il y a des cas beaucoup plus complexes. Là, c'est beaucoup plus compliqué à analyser. Alors là, par contre, la personne était à peu près symétrique, hein, par rapport à la zone de lumière, mais vous voyez que le diamètre des pupilles évolue énormément durant l'intégralité de l'enregistrement. Alors, pourquoi est-ce que le diamètre évolue comme ça durant l'intégralité de l'enregistrement ? C'est un enregistrement comme ce que j'ai fait hier avec notre aimable volontaire sur Minecraft. Non, c'était du Minecraft, désolé. Et donc, là, dans cette partie-là, toute cette partie-là, c'était dans une zone sombre du jeu. Et toute cette partie-là était dans une zone plus claire. Donc, zone plus sombre, les pupilles se dilatent. Or, là, vous allez me dire, oui, c'est un petit peu compliqué quand même de traduire ça, sachant que ça, c'est simplement des moyennes sur une heure que j'ai fait. Le fichier de départ, c'était ça. Alors c'est bien parce que comme il y a des mathématiciens, ils vont pouvoir me dire quel type de statistiques je peux faire là-dessus. Ici, j'ai le timestamp. Alors c'est suivant une référence particulière. Ensuite, j'ai les positions de l'œil gauche en X, Y, Z. Les positions de l'œil droit en X, Y, Z. La même chose en relatif. Alors, le relatif, l'absolu, c'est simplement qu'il y a une échelle particulière par rapport à l'angle de vue de la caméra. Ça, on ne va pas rester dessus. Par contre, vous voyez qu'à la fin, ici, j'ai les guess points. Et les guess points, c'est les points de fixation exacts sur l'image. Donc, à partir de ces guess points, je vais pouvoir savoir où on est exactement sur l'image en coordonnées relatives, c'est-à-dire que en haut à gauche, c'est le point 0, en bas à droite, c'est le point 1. Donc, à partir de ça, il faut réussir à faire des statistiques pour essayer d'extraire différentes caractéristiques. Alors, je vous rassure, hein, je ne vais pas vous demander de faire le calcul, parce que là, je suis sur un fichier qui fait 25 mégas, c'est que du texte, donc je dois avoir à peu près 80 à 90 000 lignes et 80 à 90 000 chiffres dans cette stat. Alors, si on reste là-dessus, toujours sur ces positions du regard, on peut calculer les distances parcourues par le regard de l'utilisateur. Donc, on peut faire, en fait, une somme absolue des distances du regard. Et donc, ça, faire des moyennes de ces distances sur une heure. Alors là, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. C'est pas le... J'aurais peut-être pas dû vous montrer. Je vais vous montrer un autre d'abord. J'ai le cas idéal qui est à peu près ça. Alors, oui, ça bouge beaucoup, hein, mais c'est en fait à peu près dans la moyenne. On est à peu près à 35. Or, 35, c'est 35 pixels. À peu près à 35 pixels de moyenne sur l'intégralité, aussi bien en vertical qu'en horizontal, aussi bien sur l'œil droit que sur l'œil gauche. Ça, c'est un cas idéal pour nous parce que c'est quelqu'un qui a à peu près toujours la même manière de regarder l'image. Alors c'est idéal, sauf que après, pour conclure différentes choses, par exemple sur des phases de jeu dans un jeu ou sur des indices de stress visuel, on n'a pas grand chose. Après, on a le cas un peu moins idéal qui est celui-ci. Alors, je vous redonne la légende parce qu'on ne la voit pas très bien. En bleu, c'est le déplacement horizontal de l'œil droit. En marron, c'est le déplacement horizontal... Non, vertical de l'œil droit. Ensuite, on a l'œil gauche horizontal qui est en gris et l'œil gauche vertical qui est en jaune. Alors là, on se rend compte que cette personne a quand même des déplacements sur l'œil droit beaucoup plus importants que ceux sur l'œil gauche. Alors, c'est un peu plus important, mais ce n'est pas le cas le plus systématique que j'ai. J'ai une personne qui a des résultats encore plus particuliers. Et là, je me suis longtemps posé la question de savoir si mon programme était bon ou faux. L'œil droit, c'est ça. L'œil gauche, c'est ça. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas mon programme qui est faux. Mon programme, il est bon, c'est sûr. Alors non, c'est pas un strabisme. C'est pas un strabisme. J'ai demandé à la personne quand même, je l'ai contacté pour lui demander pourquoi. Alors, je lui ai pas demandé pourquoi il était comme ça. Hein. Un œil de verre. Non, s'il y avait un œil de verre, on n'aurait rien pour un œil. C'était un pirate. Non, tout simplement, c'est une personne qui porte des lunettes et son œil, donc là, dans notre cas, c'est l'œil gauche. Son œil gauche, même avec, sans la correction des lunettes, n'a que 2/10. Donc il y voit très très peu de l'œil gauche. Donc son œil droit surcompense les problèmes de l'œil gauche. La personne porte des lunettes, le sait, etc. Mais on se rend compte qu'avec ce type de choses, on peut aussi identifier certains types de pathologies. Et c'est utilisé pour certains actes chirurgicaux en ophtalmologie aussi, l'eye tracking. Quand vous faites opérer de la myopie, il faut intervenir au laser sur l'œil, à un endroit très précis. Donc il ne faut surtout pas bouger l'œil. Donc ce qui se passe, c'est que le laser, il est couplé à un eye tracker. Dès que vous bougez l'œil, le laser se coupe. Alors, c'est un eye tracker qui n'a pas besoin d'être aussi précis au niveau de la direction exacte, par contre, qui a besoin d'être très précis au niveau du temps de réponse. Donc c'est vrai que quand je suis tombé sur ce type de graphique, je me suis quand même posé des questions sur la validité du test. Alors, heureusement, j'avais ce type de graphique qui, là, me plaît beaucoup plus, même si pour vous, c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Ce qu'on voit ici, sur toute cette partie-là, c'est qu'il y a des mouvements très amples du regard. C'était une phase du jeu où la personne avait besoin de découvrir son environnement. Et sur toute la fin, c'était une phase du jeu où la personne avait besoin, au contraire, d'être focalisée sur quelque chose. On se rend compte ici qu'on arrive à distinguer les deux phases. Je ne vais pas pouvoir vous dire exactement à partir de ce graphique-là, où on était exactement dans le jeu. Je ne vais pas pouvoir vous dire, là, la personne était dans une caverne, là, la personne était à l'air libre, etc. Mais en couplant ça avec la dilatation des pupilles, parce qu'on se rend compte que toute cette partie où la personne avait besoin, c'est la partie qui correspond aussi au moment où les pupilles étaient les plus dilatées. Ben, tout ça va pouvoir nous donner de nouveaux indices qui vont nous permettre, derrière, d'analyser des phases de jeu, d'analyser des comportements de l'utilisateur par rapport à un logiciel. Et c'est vraiment ça qu'on va vouloir faire. On va vouloir analyser le comportement par rapport à un logiciel. On va aussi vouloir analyser d'autres choses à partir d'un eye tracking. Un eye tracker, ça va aussi nous donner, comme je vous l'ai dit, des cartes de chaleur ou des cartes de science. Je vais revenir dessus. Si je suis sur une carte de chaleur ou une carte de science comme celle-là, je me rends compte que les endroits qui sont les plus regardés, c'est les endroits qui doivent être aussi le plus net dans mon image. Je vais pouvoir appliquer des traitements sur d'autres zones. Si je veux, par exemple, dissimuler des informations dans mon image, ce qui est tout à fait possible, hein, avec des traitements particuliers, on peut tout à fait modifier un tout petit peu les pixels pour qu'il y ait des informations dissimulées dans l'image. Ben, si je veux dissimuler des informations dans mon image, ben, je vais tout à fait pouvoir l'utiliser et les dissimuler dans les endroits où les zones, les gens regardent le moins. Donc c'est à ça que peuvent servir les cartes de science. Les cartes de science peuvent servir également à beaucoup d'autres choses. Vous avez entendu parler hier avec Yannick de mots visuels. Ben, on peut sélectionner les mots suivant s'ils sont dans des zones saillantes. Parce que s'ils sont dans des zones saillantes, c'est certainement que ces mots-là sont plus importants que ceux qui ne sont pas dans des zones saillantes. Alors maintenant, si on est dans la partie interaction, c'est un nouvel usage possible pour l'eye tracking. Les eye trackers ont beaucoup baissé. Je vous ai dit que le petit modèle que je vous ai montré hier pour l'interaction était à peu près à 100 €. Donc ce qui fait que c'est beaucoup plus utilisable. Alors peut-être pas par le grand public, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'applications, mais dans certains cas particuliers. Et bien là, les cas particuliers, ça va être par exemple pour la prise en compte du handicap. Une personne qui va avoir un handicap physique ou moteur ne va pas forcément pouvoir utiliser convenablement une souris. Et bien là, on va simplement remplacer la souris par la direction de son regard. Alors, il ne faut pas faire bouger la souris en même temps que son regard, hein, sinon ça va être une horreur. Mais on peut simplement mettre une validation avec un bouton particulier. Et bien, quand la personne regarde cet endroit-là, il appuie sur le bouton et ça permet de valider son clic de souris. Donc là, c'est quelque chose qui est tout à fait possible donc pour la prise en compte du handicap. Dans le domaine vidéoludique, ils ont l'ambition de réussir à remplacer la souris. Pour moi, c'est pas encore assez au point parce qu'il va falloir faire énormément de filtrage, tout simplement pour éviter tous les mouvements de saccade et ne prendre que les fixations. Alors, il y a d'autres utilisations, hein, pour des systèmes de visualisation 3D. Je vous ai montré hier le cube qui tournait en fonction de ça. On peut tout à fait visualiser des objets en 3D. Dans le domaine médical, on peut aussi visualiser une IRM, un scanner, à partir de ça. Le médecin est en train d'opérer. Au lieu de demander à son assistant de tourner la vue, il va regarder et quand ça va avoir suffisamment tourné, il va arrêter de regarder ou il va dire de stopper le système d'eye tracking. Donc là, du coup, le médecin va pouvoir orienter la vue vraiment avec ce que lui souhaitait par rapport à ce que pouvait imaginer son assistant. Alors, l'eye tracker mobile, là, c'est sous forme de lunettes, donc c'est totalement mobile, modulable. Alors, c'est fait pour le marketing, la conduite, l'entraînement, ça peut être utilisé aussi pour des lancers francs, par exemple en basket, pour vérifier où la personne regarde. Est-ce que la personne regarde le niveau du filet, un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc ça peut être utilisé pour de l'entraînement. Ça peut être utilisé aussi dans le cadre d'exposition. Et c'est utilisé souvent pour de la lecture ou des tâches sans écran. Donc on va donner en fait des choses imprimées à des utilisateurs équipés d'eye tracker sous forme de lunettes. Et on va regarder ensuite son texte. Alors, je vous ai parlé de tout ça. Je vous ai dit aussi que l'eye tracker mobile, les lunettes, avaient été utilisées à l'université de Limoges pour faire des tests, pour essayer de, en fait, d'évaluer l'apport du cours en présentiel par rapport à un cours filmé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé un eye tracker sur un écran et ils ont passé le cours filmé à un ensemble d'étudiants. Et en même temps, alors pas tout à fait en même temps, un peu en décalé, un peu plus tôt, le cours avait été filmé en présence d'autres étudiants et certains disposaient de lunettes. Et ils ont fait une comparaison des résultats entre les personnes qui disposaient des lunettes, donc l'endroit où regardaient les gens, et l'endroit où regardaient les gens dans le cadre du cours avec écran. Et c'est assez intéressant puisque, en moyenne, les gens regardent au même endroit. C'est-à-dire que les étudiants dans la salle passent un peu de temps, bon, je le dis, c'est à peu près 5% du temps sur une heure, ce qui fait quand même 5 minutes, à regarder la montre, enfin l'horloge qui était affichée dans le coin du truc. Mais ce qui est très drôle, c'est que même si le cours a été filmé, donc la montre ne correspond absolument pas au temps où la personne regarde sur l'écran, il passe aussi 5% du temps à regarder la montre, alors que ça correspond à rien. Il passe en moyenne 50% du temps à regarder le prof. Donc quand le prof est là, c'est logique. Mais quand le prof est simplement filmé, ben il passe aussi 50% du temps à regarder le prof. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'avoir cette présence de quelqu'un pour être plus intéressant. C'est quand même assez rassurant. On est encore utile et vous aussi, hein, si vous devenez maître de conférence, vous aurez quand même une quelconque utilité. Les étudiants vous regarderont un peu quand même. Et ben les 45 autres pourcents du temps, ben c'est en général à regarder le diaporama. Alors c'est pas tout à fait 45, c'est plutôt entre 35 et 40 selon les étudiants, parce qu'il y a quand même 10% du temps qui est passé à faire autre chose. Alors soit à regarder le décor de l'amphi. Il y avait dans cet amphi, je ne sais pas pourquoi, il y avait un panneau sortie de secours qui était en vert. Ben le panneau de sortie de secours en vert, il y a eu quand même quelques étudiants qui ont passé du temps à le regarder. Ah ouais. On voit pas l'intérêt. Et après, il y a aussi, alors là c'était plutôt sur les étudiants qui disposaient des lunettes. Il y a aussi une grosse partie du temps qui est passée sur les téléphones. Alors le propre téléphone de l'étudiant. Là, c'est pour l'étudiant qui avait oublié qu'il avait les lunettes. Donc je vous le dis, hein, on les oublie très vite. Mais surtout les téléphones des autres qui sont juste devant lui. Alors là, c'est très drôle puisque le prof a pu voir que pendant que les étudiants étaient sur leur téléphone ou même sur leur ordinateur portable, même parfois, c'était pas du tout le cours qui prenait en note. Hein. C'était Facebook, les mails, même en général, plutôt Facebook. Il en a même vu un qui avait passé tout son cours à regarder une vidéo sur YouTube pendant qu'il était en cours. C'est dommage quand même quand on est juste devant la personne qui est munie de l'eye tracker. Alors, il avait fait signer un papier aux étudiants, bien entendu, pour les autoriser à l'utilisation des données. Mais comme les autres n'avaient pas donné leur autorisation, il n'a pas pu reprendre l'étudiant en lui disant ben, « j'ai vu sur la vidéo ». Il y a quand même une certaine réserve éthique là-dessus. Donc on se rend compte que ce soit pour la pédagogie, pour l'enseignement ou pour toute autre tâche, l'eye tracker, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un objet technologique. C'est un objet technologique qu'on n'a pas du tout développé à l'université de Poitiers. Je vous ai présenté des appareils hier qui étaient d'une certaine marque. Cette marque-là, c'est simplement que c'est la marque qui est fournisseur de l'université. On n'a pas un marché spécifique avec eux, mais à chaque fois qu'on lance un marché, c'est les premiers à répondre et c'est les moins chers. Donc on passe par eux. Voilà. Ça a de multiples utilisations. Ça permet l'expérimentation à tout âge. Alors, les eye trackers vont fonctionner. Les eye trackers sur écran, sur les écrans fixes, fonctionne à partir de 5 ans. À partir de 5 ans, on peut utiliser des eye trackers fixes comme ça. Pour les lunettes, il faut un petit peu plus grand parce qu'elles sont d'une certaine largeur. Donc il faut que le visage soit un peu plus grand. Mais ils ont déjà fait des tests avec les lunettes, avec des enfants de 8-9 ans. Et ça fonctionne. Après, avec des enfants de 8-9 ans, le problème, c'est que même s'ils l'oublient, ils oublient qu'ils ont les lunettes. Donc de temps en temps, ils ont envie de les nettoyer ou de les essuyer. Et là, faut plutôt les fixer derrière la tête et leur dire, ben voilà, t'y touches pas parce que ben c'est très fragile et donc faut faire attention. Ça permet de prendre en compte le système visuel humain et l'aspect psychosensoriel dans les traitements et dans les interfaces. Donc les traitements, ça peut être les traitements d'image, et les interfaces, ça peut être les interfaces homme-machine qu'on va développer avec ce type de système. Sachant que pour le moment, les eye trackers fixes et l'interaction, c'est un domaine qui est totalement à son début. Les premiers eye trackers fixes pour l'interaction sont sortis il y a moins de 2 ans. Donc c'est quelque chose qui peut tout à fait être une thématique de recherche dans le futur. Je vous remercie. Et bien entendu, si vous avez des questions. C'est bien, il y a plein de questions.
Il y a beaucoup de questions. On va passer deux micros. Pas les deux en même temps.
On va peut-être pas les deux en même temps.
Alors c'est juste pour réagir sur ce que vous venez de dire sur l'expérimentation à tout âge. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées justement à l'évolution du système visuel humain au cours du temps, c'est-à-dire comment on regarde un enfant, comment on regarde un adulte et comment on regarde une personne âgée?
Alors, ça a déjà été testé à de nombreuses reprises. On est en train de réfléchir aussi à ce qui se passe dans le cadre de pathologies, entre autres pour les personnes âgées. Quand il y a des zones du cerveau qui fonctionnent moins bien, qu'est-ce que ça peut entraîner sur la manière de découvrir une image? Donc là, c'est des choses qui sont... Il y a des choses qui ont été faites, bien entendu, avec les enfants, adultes, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. On se rend compte que à partir de 14-15 ans, les gens regardent à peu près toujours de la même manière, même quel que soit l'âge. Après, ça va forcément dépendre du centre d'intérêt de la personne. Mais si on a une image à peu près neutre, bon, celle-ci par exemple, quel que soit l'âge, on va la regarder à peu près de la même manière. Par contre, si on est sur des enfants, les enfants vont être beaucoup plus attirés par les couleurs vives, par les choses qui vont avoir un design agréable. Voilà.
D'accord, merci.
Moi, c'est concernant justement le graphe. On a vu le fait que d'abord la personne découvrait son environnement, puis oui. Après était focalisée sur une partie du jeu. On voit que sur la partie découverte de l'environnement, il y avait justement un décalage entre œil gauche et œil droit, alors que pendant la partie focalisée, les deux se comportaient exactement de la même façon. Pourquoi il y a eu cette différence en plein milieu ?
Alors, cette différence en plein milieu vient certainement d'un léger défaut visuel de la personne. J'ai pas eu l'occasion vraiment de discuter longuement avec cette personne-là, mais je pense que son œil droit surcompense par rapport à son œil gauche. Il y a peut-être simplement une petite différence d'un ou deux dixièmes, hein, mais ça suffit. Et le fait que après, lorsqu'on est beaucoup plus focalisé, les deux yeux vont fonctionner de la même manière, c'est tout simplement parce que lorsqu'on a besoin de faire des grands mouvements, si on a un petit défaut visuel ou une petite fatigue visuelle, les grands mouvements vont être beaucoup plus difficiles par l'œil fatigué. Tandis que quand on est sur une focalisation, on est toujours au même endroit. Donc les deux yeux vont fonctionner à peu près de la même manière.
Vous avez sur les points de fixation, tout le monde voit à peu près, regarde à peu près la même chose. Sur les saccades, c'est pareil ou c'est très différent?
Ah non, sur les saccades, c'est totalement différent. Sur les saccades, on va découvrir l'environnement d'une manière totalement différente par personne. On va se rendre compte que, au final, tout l'environnement est découvert, mais d'une manière totalement différente, suivant les personnes, suivant les centres d'intérêt, etc. Mais tout l'environnement est toujours découvert. Alors, je reviens simplement là-dessus. On a quand même tendance, et là on l'a vu hier, entre autres avec les lunettes, lorsqu'une personne se promène avec les lunettes, elle a tendance à regarder les visages des utilisateurs. Ça, c'est valable, quel que soit l'âge. Ils ont même fait des tests avec des bébés et des eye trackers très spécifiques qui pouvaient fonctionner avec les tout-petits. Et même les tout-petits, à partir de 1 an, fixent déjà les visages. C'est la première chose qu'ils voient, même si on leur projette simplement des images. D'autres questions?
Justement, pour l'observation des visages, ça peut, je me disais que ça peut varier selon les cultures. C'est-à-dire qu'il y a des cultures où c'est mal poli de regarder son interlocuteur droit dans les yeux, et d'autres où on regarde les gens droit dans les yeux, parce que si on regarde à côté, ça va être mal considéré. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont étudié ça avec l'eye tracker, justement voir l'aspect culturel, géographique sur la vision humaine?
Alors ça, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu de papier passer spécifiquement là-dessus. J'ai vu des papiers passer suivant l'influence de la culture pour regarder des images en général, mais pas spécifiquement impliquées sur les visages. Ce qui est compliqué quand on est là-dessus, c'est qu'il faut faire des études au niveau mondial. Et déjà, simplement des études au niveau local, avoir suffisamment de volontaires, c'est compliqué. Alors vous imaginez, au niveau mondial, c'est à mon avis beaucoup plus complexe, mais là ça pourrait faire l'objet d'un projet international où on a des équipes disposant du même eye tracker dans 15, 20, 30 pays différents pour voir les différences. Sachant que même si c'est mal poli dans certaines cultures où c'est pas ça ne se fait pas de regarder les gens dans les yeux, on a quand même tendance à chercher les indices sur le visage. Même si ça va pas être dans les yeux, on va regarder la bouche pour voir s'il y a un sourire. On va regarder au niveau du visage. On va pas forcément regarder droit dans les yeux, mais on va regarder quand même assez proche du visage. C'est très rare que la personne s'adresse à quelqu'un en lui parlant comme ça. C'est quand même très rare. Et moi, je sais que j'y arriverai pas, en tout cas.
Et quand tu parles de handicap, tu parles de handicap physique, mais psychologique, mettons, est-ce que ça a été testé sur des autistes ?
Ça a été testé sur des autistes. Ce qui se passe, alors ça dépend. Alors, le problème de l'autisme, c'est qu'il y a tellement de formes d'autisme qu'on ne peut pas donner des conclusions nettes et franches. Sur certains types d'autisme, c'est les points de fixation qui sont problématiques, c'est-à-dire que la personne autiste ne va pas réussir à fixer son regard. Et donc son regard va bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf quand il y a vraiment une chose qui va l'intéresser, mais c'est pas forcément du tout, par contre, cette fois-ci, ce qui va intéresser le reste des gens. Par contre, sur d'autres formes d'autisme, le parcours visuel va être totalement standard et standardisé.
Oui. Moi, j'ai une question à propos de la modélisation des pathologies, en fait. Parce que, vu qu'on peut visiblement voir s'il existe une différence entre les deux yeux, est-ce que ce serait pas un moyen de détecter, par exemple, des troubles chez l'enfant, où il est difficile de faire des tests oculaires ?
Alors, ça pourrait être utilisé, mais on ne peut pas savoir quelle est la pathologie. On peut savoir qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas savoir quoi. C'est-à-dire qu'on peut savoir qu'il y a un problème. Mais là, ce que j'ai montré sur la différence entre les deux yeux, là où c'était le plus flagrant, où on avait un œil qui compensait complètement par rapport à l'autre, c'était très facile de le montrer par rapport à autre chose. Même chez un enfant en bas âge, une différence aussi importante sur les deux yeux, même si la personne ne sait pas lire, on va lui montrer des images, on va cacher un œil, et il y a une image où il va dire bah « là, je la vois pas bien ». Et là, on sait tout de suite qu'il y a un problème. On va pas pouvoir être aussi précis que sur des diagnostics comme celui-là. On va pouvoir le détecter, mais vu le prix des eye trackers et vu les connaissances et la durée des expérimentations, c'est beaucoup plus court de simplement cacher un œil et de demander à l'enfant s'il voit net ou pas, ou s'il voit bien ou s'il voit pas bien, que d'utiliser un eye tracker pour réussir à le démontrer.